Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde. Tel est le titre du livre de notre invité, invité de ce nouveau numéro du magazine Idées qui interroge, vous le savez, ceux qui pensent le monde. C'est plus que jamais le cas aujourd'hui puisque nous recevons Jean-Marie Guéhenno, professeur à l'Université de Columbia à New York, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies auprès de Kofi Annan. Ce livre est un manifeste contre la société unidimensionnelle. Pour le pluralisme, pour une société ouverte, écrit Jean-Marie Guéhenno, qui observe avec inquiétude les sociétés qui se globalisent tout en s'émiettant, pour le citer à nouveau. Voici donc un nouveau numéro d'Idées, le magazine que vous pouvez retrouver aussi téléchargé sur le site de la radio et votre plateforme préférée. Bonjour Jean-Marie Guéhenno.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Nous allons parler ensemble de l'évolution du monde, un monde que vous observez depuis quelques décennies maintenant et dont vous avez été un acteur il y a quelques années de cela, puisque je le disais, vous avez été pendant 8 ans secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. C'était un secteur stratégique, à un moment clé.
Absolument. J'ai été secrétaire général adjoint au moment où les opérations de la paix ont connu une croissance sans précédent. Quand je suis arrivé, c'était juste après les tragédies de la Bosnie, du Rwanda, l'échec en Somalie. Mais c'était aussi le rapport qui avait été rédigé sous la direction d'un grand diplomate algérien, Lakhdar Brahimi. Et ce rapport a été, je dirais, la pierre de fondation d'une renaissance du maintien de la paix. Et dans les années où j'étais aux Nations Unies, le nombre des personnels déployés a dû grandir de 20 à 25 000 à plus de 100 000. Où maintenant, il y a une certaine décrue qui s'est amorcée. Mais j'ai été là pendant pratiquement toute la décennie de croissance des opérations de maintien de la paix, où il y avait encore, je dirais, une grande espérance dans ce que pourrait apporter le maintien de la paix au pays qu'on appelle fragile.
Alors auprès, Jean-Marie Guéhenno, d'un grand secrétaire général.
Oui, d'un secrétaire général qui était vraiment un homme charismatique, qui avait un grand sens de la relation humaine. Moi, je l'ai observé dans beaucoup de réunions avec des chefs d'État, avec des ministres. Je crois que c'était un homme qui savait qu'il est très difficile de convaincre les puissants de ce monde simplement avec la force des arguments. Il faut faire jouer l'intuition, peut-être quelquefois insinuer le doute. Je me souviens de rencontres avec George W. Bush, par exemple. Et George W. Bush, il y a quand même eu des moments très difficiles avec la guerre d'Irak.
2003,
c'était pas le moment le plus facile des relations entre les Nations Unies et les États-Unis. Mais il savait quelquefois, en posant des questions, mettre son interlocuteur dans une attitude d'ouverture. Et ça, je crois que c'était une grande force. Et le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas quelqu'un qui a du pouvoir. La question de Staline, à combien de divisions? Oui, il y a les soldats du maintien de la paix, mais ils sont pas là pour faire la guerre. Le secrétaire général des Nations Unies, c'est quelqu'un qui ne peut agir que par son influence, au fond, par le fait que des chefs d'État, des responsables politiques lui parlent, qu'il est une extraordinaire source d'informations, parce qu'il est branché, au fond, sur le monde entier, et qu'à travers ces informations, il peut donner des petits coups de pouce qui font bouger les choses. Ça, c'est son influence. Et puis, il y a ce que les anglo-saxons appellent le bully pulpit. Il y a le fait de pouvoir, de la tribune des Nations Unies, fixer un cap, rappeler le monde à quelques principes fondamentaux. Et dans un monde déboussolé, c'est important. Et Kofi Annan a très bien joué ce rôle. Peut-être que la difficulté, c'est qu'il l'a presque trop bien joué. C'est-à-dire qu'il a donné l'impression au monde que maintenant le cap était fixé. Et on s'aperçoit que c'était plus compliqué que ça et qu'il y a bien des manières de voir la direction du monde aujourd'hui.
Alors justement, c'est au cœur de votre livre, Jean-Marie Guéhenno, le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde. Et vous commencez ce livre avec la phrase suivante. Il aura fallu les 8 années que j'ai passées à la direction des opérations de maintien de la paix de l'ONU pour que je comprenne la fragilité des sociétés humaines. Vous en doutiez un petit peu avant, quand même.
Je m'en doutais un petit peu, mais bon, mon horizon, c'était celui de l'Europe, d'un continent largement en paix. Enfin bon, il y a eu les guerres de Yougoslavie, oui. Mais tout le reste de l'Europe était en paix. D'un continent prospère, d'un continent qui, au fond, tenait la réussite de l'après-guerre comme une sorte d'acquis indépassable et qui se voyait comme le modèle naturel du monde. Et je crois que ce que j'ai découvert dans les pays où se déploient des maintiens de la paix, c'est que ce qui fait tenir une société humaine, c'est un vernis qui est assez fragile. Et quand ce vernis, pour une raison ou pour une autre, s'écaille, quand il disparaît, à ce moment-là, c'est très difficile de le reconstruire. Et donc, ce dont j'ai pris conscience, c'est vraiment de la précarité de toutes nos sociétés humaines.
Alors, les sociétés humaines qui sont au cœur de votre livre, et je trouve que le point fort, un des points forts de votre livre, Jean-Marie Guénaud, c'est que vous mêlez justement les relations internationales, stricto sensu, politiques, et l'évolution des sociétés. Souvent, on les distingue.
Oui, quand vous réfléchissez à ce qu'ont été les grands événements de politique internationale des 10 dernières années, au fond, les deux plus importants, c'est l'élection de Trump et c'est le Brexit. Ces deux événements de politique intérieure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui gouverne le monde, que la dynamique entre les pays, elle est contournée en quelque sorte par la dynamique des contacts entre les sociétés. Et l'idée, au fond, de la diplomatie classique, où on dit Washington, Paris, Londres, comme si c'était les pions sur un jeu d'échecs, et que chaque pays avait sa voix bien unifiée, et que c'est une sorte d'algèbre des relations internationales, que ça ne correspond pas à la réalité du monde. Non seulement parce que les acteurs politiques sont en permanence ballottés par des dynamiques intérieures, mais aussi parce qu'il y a des acteurs qui entrent en rivalité, en quelque sorte en concurrence avec ces acteurs politiques. Probablement les grandes sociétés qui dominent aujourd'hui le monde des données, les GAFA, comme on dit, Google, Amazon, Facebook, sont d'une certaine manière plus puissantes que beaucoup d'États des Nations Unies. Et donc, oui, l'idée de relations internationales, aujourd'hui, elle décrit un monde qui a largement disparu.
Avec des sociétés qui évoluent, vous retracez dans votre livre l'évolution depuis la fin de la guerre froide. Et en quelque sorte, c'est l'histoire d'une désillusion, votre livre. En tout cas, la fin d'une illusion née justement après la fin de la guerre froide.
Oui, c'est une partie de mon livre. Je ne veux pas rester uniquement sur l'idée de désillusion. On y reviendra peut-être, mais c'est une
sûrement.
Désillusion dans la mesure où je crois... Bon, moi, je me souviens très bien de mes sentiments le 9 novembre 1989, quand le mur de Berlin est tombé. Je suis d'une génération qui avait connu la guerre froide, qui avait connu la menace de l'holocauste nucléaire, qui avait rencontré des dissidents, qui avait lu Solzhenitsyn. D'un seul coup... voir ce monde s'effondrer, et s'effondrer pour l'essentiel sans violence, ça avait un aspect presque magique. Et puis on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on avait pris pour le triomphe de la démocratie, c'était peut-être simplement l'effondrement d'un système à bout de souffle.
Alors j'ai voulu, avec Vanessa Rovansky, que nous illustrions cette époque, et nous n'allons pas parler de la chute du mur, mais de la fin de l'URSS, qui est au cœur de votre développement, Jean-Marie Guénaud. Je vous propose de nous replonger à un certain 26 décembre 1991, avec la fin officielle de l'URSS. Écoutez ce journal de la radio France Inter.
Bonjour. Jeudi 26 décembre 1991, Das Vidania, au revoir, Monsieur Gorbatchev, le 8e et dernier président de l'Union soviétique, s'en est allé hier soir à 18h. Il a démissionné et remis le contrôle du nucléaire à Boris Eltsine. Spasiba, merci, Monsieur Gorbatchev, de Tokyo à Paris en passant par Washington, toutes les grandes capitales rendent hommage ce matin à l'homme de la perestroïka. Dobry dien, Boris Yeltsin, et aujourd'hui, place à Eltsine. Avec le départ de Gorbatchev vient le temps des questions et des nouvelles républiques indépendantes, républiques reconnues hier soir par Washington. Deux hommes qui ont incarné les deux superpuissances du globe, deux hommes qui ont discuté à plusieurs reprises du destin de la planète. L'un s'en va, l'autre lui tire son chapeau. Écoutez-les, le premier, c'est évidemment Mikhaïl Gorbatchev, annonçant sa démission hier soir à 18h.
Chers compatriotes, chers concitoyens, vu la situation qui s'est créée avec la fondation de la communauté des États indépendants, j'arrête mes activités en tant que président de l'Union soviétique.
Le deuxième, c'est George Bush qui lui rend hommage. C'était cette nuit à 3h du matin, heure française.
I'd like to express on behalf of the American people my gratitude to Mikhail Gorbachev.
Je voudrais exprimer au nom des Américains ma gratitude envers Mikhail Gorbatchev pour les années d'engagement résolu en faveur de la paix mondiale, pour son esprit, sa vision et son courage. Mikhail Gorbatchev, avec sa politique révolutionnaire, a transformé l'Union soviétique. Son action a permis aux Russes et aux peuples des autres républiques de jeter aux oubliettes des décennies d'oppression et d'établir les fondements de la liberté.
Après 6 années et demie de pouvoir, Mikhaïl Gorbatchev s'en est allé, signant par là même l'avis de décès définitif de l'URSS.
Jean-Marc Four, donc, le journal du 26 décembre 1991 sur France Inter. Vous écoutez Idée et vous êtes sur RFI, Radio France Internationale. Nous sommes dans ce numéro d'Idée en compagnie de Jean-Marie Guéhenno qui vient d'écrire le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde. Jean-Marie Guéhenno, vous écrivez dans votre livre, je vous cite, « Notre plus grande illusion, notre premier mensonge, point d'interrogation, dont tout découle, et d'avoir vu dans l'effondrement de l'URSS et du bloc soviétique la victoire de la démocratie. »
Oui, je crois que il y avait des personnalités extraordinaires. On vient d'entendre Gorbatchev. Il y a eu Lech Walesa. Il y a eu toutes sortes de personnalités qui ont vraiment donné l'impression que ce qui se passait, c'était la victoire des dissidents, de tous ceux qui avaient lutté pour la liberté avec en courant de grands risques dans ces pays. Et en réalité, c'était autre chose. Et l'éclatement de l'Union soviétique, je me souviens très bien de ce moment-là que vous venez de rappeler. Bon, c'était la transformation d'un empire en un État. Et ça a été un traumatisme, je crois, très profond pour les Russes, qui n'étaient pas seulement dans la Russie. D'une certaine manière, la fin de l'URSS, beaucoup de Russes l'ont vu comme une balle perdue de l'histoire. Pour Yeltsin, qui contrôlait le parti communiste russe, il pouvait prendre le pouvoir dans le cadre de la Russie, c'était beaucoup plus compliqué de le prendre dans le cadre de l'URSS. Et donc il a manœuvré pour faire éclater l'URSS. Mais en faisant cela, il a plongé le pays dans une crise durable, et dont, d'une certaine manière, il n'est pas complètement remis aujourd'hui. Quand vous voyez le cas des empires comme l'Empire britannique ou l'Empire colonial français, d'une certaine manière, ces deux empires, eux aussi, ont eu un problème d'identité. Parce que l'Empire avait fait partie, finalement, de la construction de l'idée nationale. Mais en France, en Grande-Bretagne, il n'y avait pas de contiguïté entre les colonies et la métropole. Et donc cette séparation, même si elle a posé des problèmes psychologiques sérieux, et ça a fait l'objet presque d'une guerre civile en France pour ce qui est de la séparation avec l'Algérie, imaginez ce que c'est en Russie, avec la continuité territoriale de la Russie, avec ces espaces qu'elle avait progressivement conquis. Et donc ça a été un choc très profond pour la Russie. Et on a laissé penser que la Russie, en rejoignant le train des démocraties, il suffisait qu'elle accroche son petit wagon et que tout allait bien. Et elle s'est aperçue qu'elle n'était que le wagon de deuxième classe de ce train et qu'elle avait toute une identité à reconstruire, tout un tissu de la société. En plus, il y a eu des réformes économiques qui ont été malmenées. Donc un traumatisme profond. Et Poutine, dans ce contexte-là, est apparu comme le grand réparateur psychologique du pays.
D'ailleurs, en quelque sorte, l'URSS devenue Russie illustre bien ce que vous montrez, cette évolution de sur 30 ans en fait du monde avec un espoir de démocratie avec la chute de l'URSS, mais aujourd'hui Poutine au pouvoir.
Exactement, exactement. Comme on est loin des rêves de 1990,
la fin de l'histoire, 1991. etc., etc. Francis Fukuyama, oui.
On n'est plus du tout dans ce monde-là. On est dans un monde à la poursuite de l'identité et de l'autorité. Et ce sont les deux choses qu'apporte Poutine, qui n'a pas réformé la Russie, qui reste très dépendante des matières premières, dont l'économie ne s'est pas transformée comme elle aurait pu le faire. Et il y a un grand contraste entre ce qu'on peut voir à Moscou avec une sorte d'étalage de richesses, de nouvelles
bling
richesses.
Bling-bling, comme on dit, familièrement.
Très bling-bling. Je ne sais pas, mais ça doit être sûrement un des meilleurs marchés pour les voitures de luxe dans le monde. Il y a Moscou, il y a Saint-Pétersbourg, et puis il y a beaucoup de villes du pays qui sont dans un état assez médiocre, pour ne pas dire plus.
Jean-Marie Guéhenno, vous dites aussi que la fin de l'URSS a marqué aussi, même si vous critiquez évidemment ce que fut le communisme, a marqué la fin d'une notion de la politique collective.
Oui, je crois que avec l'opposition qu'il y avait entre le modèle, si on peut dire, communiste et puis le modèle occidental, dans les deux camps, il y avait la vision d'un État qui façonne la société, qui l'organise. Et donc, il y avait une certaine croyance dans la politique, dans la capacité de la politique à changer, ou en tous les cas à gérer une société. Alors, si on était plutôt du côté réformateur, c'était pour la changer. Si on était conservateur, c'était pour la protéger, pour la conserver. Mais dans les deux cas, il y avait une grande confiance dans la capacité de l'État, de la puissance publique, comme on dit de moins en moins.
Oui.
Une expression presque archaïque aujourd'hui. Et son archaïsme traduit bien l'évolution des esprits. On n'est plus dans un monde où on fait confiance à l'État. Et donc dans le désamour, dans le désenchantement vis-à-vis de la politique, il y a cette perte de confiance dans la capacité des gouvernants à gouverner. Et ça, c'est dans une société, ça a toutes sortes de conséquences, parce que ça veut dire, à ce moment-là, est-ce qu'il faut voter? Est-ce qu'on va se mobiliser pour des partis politiques? On voit qu'il y a de moins en moins de mobilisation pour des partis politiques. On se mobilise pour une cause particulière, l'égalité des hommes et des femmes, le climat, des causes très importantes. Mais l'idée du parti politique qui va arriver avec un programme qui a réponse à tout, sur tous les sujets, c'est de moins en moins crédible et les responsables politiques, d'ailleurs, le comprennent parce que de plus en plus, ils proposent des symboles plus que des politiques.
Alors cette tendance avait déjà été creusée un petit peu, le sillon avait été creusé par Margaret Thatcher qui considérait que la politique n'avait pas, vous citez d'ailleurs sa phrase, à se mêler de la vie des individus hein, et que pour elle la société n'existait pas. C'était un mythe et c'est à partir de ces années 90, sur les ruines de la guerre froide, qu'est apparu peu à peu l'individu.
Absolument.
Et ce que vous appelez l'idéologie de l'individu tout-puissant.
Oui, symbolisé par des hommes d'exception, ceux qu'on a connus au moment de l'effondrement du communisme. Et l'équilibre qui doit exister dans toute société entre l'individu et sa capacité d'initiative, d'imagination, de création, mais en même temps les forces collectives, sans lesquels l'individu reste impuissant, cet équilibre a été rompu. Et on voit bien que des deux côtés de l'échiquier politique, c'est arrivé. C'est-à-dire du côté, disons, de la social-démocratie, de la politique réformiste traditionnelle, le scepticisme qui a grandi sur la capacité des États à changer la société affecte les sociodémocrates, dont on pensait au fond qu'ils allaient être les vainqueurs naturels de l'effondrement du soviétisme, parce qu'ils allaient, ils se débarrassaient du cousin totalitaire, et ils pouvaient maintenant être pleinement démocrates et socialistes. Sont entrés en crise, et les conservateurs aussi, d'une certaine manière. Vous rappeliez la phrase de Margaret Thatcher que je cite dans mon livre.
Sur je voudrais que nous la citions. Je l'ai retrouvée, c'est à la page 99 de votre livre. C'était une phrase prononcée lors d'un entretien avec un magazine féminin en 1987. Voilà ce que dit Margaret Thatcher à l'époque. Et vous savez, la société, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les individus, des hommes et des femmes. Ce sont les familles. Et aucun gouvernement ne peut faire quoi que ce soit sinon à travers les gens. Et les gens doivent commencer par s'occuper d'eux-mêmes. Elle a gagné,
tout en tuant le parti conservateur traditionnel, certaine manière, tout en tuant toute la pensée traditionnelle des partis conservateurs, pour lesquels, justement, il y a quand même un projet collectif de conservation d'une société. Et elle, en mettant en avant les individus, elle scie la branche sur laquelle son parti politique était confortablement installé. Et derrière cette phrase, finalement, il y a tous les mouvements populistes qui ont suivi, où justement, les individus ne croient plus aux structures de partis traditionnels. Et c'est ça la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et cette phrase était vraiment prémonitoire quand elle a été prononcée.
Alors il y a, sur le plan technique, technologique, il y a eu une révolution dans ces années-là. Là, nous étions en 1991 avec la fin de l'URSS. Quelques années plus tard, on commençait à parler de l'Internet, de cette révolution d'Internet. Et je vous propose d'écouter un témoignage d'époque. C'est une interview d'un spécialiste de la question, André-Yves Portnoff, qui est un expert en prospective, et qui disait ceci le 14 octobre 1994.
Finalement, ce qui compte, c'est l'homme, ce qui compte, c'est la civilisation démocratique, c'est l'esprit démocratique des gens qui vont utiliser toute cette communication. Alors, nous sommes face à un phénomène explosif, 30 millions d'utilisateurs, 50 millions à la fin de l'année, probablement. Aujourd'hui, aux États-Unis, on vend plus d'ordinateurs personnels que de téléviseurs. Ceci donne l'échelle du phénomène. En tout cas, il y aura des conséquences sur la société. Il y a déjà. Alors, certaines des conséquences peuvent être très négatives. Est-ce que notre planète va éclater ? Aujourd'hui, par exemple, la télévision, le 20h de la télévision, constitue un forum où une partie importante de la population se retrouve devant le même spectacle. Forum centralisé, mais qui apporte une cohésion que souligne, par exemple, un philosophe comme Dominique Volton dans la société. La multiplication des chaînes détruit cet effet de cohésion. Alors, est-ce que des réseaux comme Internet apporte un nouveau type de cohésion? Il y a par exemple des réseaux, le Jérusalem Report parlait des réseaux juifs où 300 000 ou plusieurs centaines de milliers de juifs dans le monde dialoguent, discutant parfois d'ailleurs avec des Palestiniens, ce qui donne des choses intéressantes. Et ce qui signifie que l'informatique peut créer des espaces de cohésion sociale, culturelle, mais des espaces qui ne sont plus liés au territoire. Jusqu'à présent, le territoire physique, c'était un bout de terre avec des soldats autour. Et maintenant, nous pouvons être à la fois sur un territoire physique et sur un territoire immatériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles seront les conséquences de tout cela sur la société?
Très intéressant cette déclaration d'André-Yves Portnoff, donc spécialiste des questions de prospective et des questions d'Internet. Déjà à l'époque, c'était le 14 octobre 1994, Jean-Marie Guéhenno, il avait senti les choses.
Oui, non, c'est assez remarquable la manière dont il voit que les communautés virtuelles de l'Internet vont entrer en concurrence avec les communautés territoriales. C'est vraiment visionnaire de l'avoir vu dès 1994.
Alors à l'époque, 1994, il nous parle de 30 millions d'utilisateurs d'Internet. Nous en sommes à plus de 4 milliards aujourd'hui. Donc les choses ont quelque peu évolué. Mais la tendance, quand il dit, par exemple, la notion de territoire disparaîtra, il a raison.
C'est-à-dire qu'il y a une concurrence. Les territoires continuent d'exister. La proximité géographique compte. Quand l'Afghanistan tombe avec les talibans, ça nous touche un petit peu, mais ça nous touche quand même de façon très limitée, parce que l'Afghanistan, c'est loin, tandis que notre pays, c'est tout proche. C'est nous. Et donc, je crois que ce décalage entre la géographie des émotions et la géographie des territoires et les géographies virtuelles, il reste. Mais ce spécialiste de l'Internet voit avec beaucoup de justesse, c'est effectivement le mélange d'universalité de l'Internet et en même temps de fragmentation. C'est les deux à la fois.
C'est au cœur de votre livre, hein. C'est exactement ce que vous dites aujourd'hui.
Exactement.
À la fois la globalisation et l'émiettement.
La globalisation, parce que l'Internet, d'une certaine manière, ça consolide l'anglais comme langue universelle, mais en même temps, ça consolide les tribus. Parce que vous vous intéressez à un sujet particulier, vous pouvez être déterritorialisé. Vous pouvez être à San Francisco, New Delhi, Paris, Dakar. Vous pouvez vous retrouver dans cet espace virtuel. Je pense que ce qu'il n'a peut-être pas vu dans l'Internet, c'est la capacité de discorde, de violence, de confrontation entre ces tribus que permet l'Internet.
On notera quand même que dans ces années 90, même si c'était un monde avec ses problèmes, ses crises, ses guerres, il y avait un peu d'optimisme.
Oui, il y avait tous ceux qui pensaient que l'Internet, ça allait être un instrument d'abord de libération. Parce qu'effectivement, l'Internet ne connaît pas de frontières. Donc, grâce à l'Internet, chacun allait pouvoir être libéré et participer d'une sorte de communauté mondiale. Et ça, c'est une illusion, parce que l'Internet, en réalité, permet autant le contrôle que la libération. Parce que nous laissons une trace digitale de nos activités à chaque instant de notre vie. Parce que l'Internet, en 1994, c'est l'Internet de la communication. Mais aujourd'hui, on va vers l'Internet des choses, où tous les objets de notre vie quotidienne
sont connectés.
Ouais. Et donc, chaque instant de notre vie, nous créons des données qui nous encerclent, en quelque sorte. Et pour une dictature, c'est un instrument formidable, dont la dictature de Staline ou de Hitler aurait rêvé.
Alors, il faudrait parler d'une autre dictature qui est apparue ces dernières décennies, c'est la Chine, qui a bien compris l'intérêt qu'il y avait à contrôler ces outils numériques.
Oui, alors la Chine, d'abord, elle essaye de... que l'aspect universel de l'Internet, elle essaye de le maîtriser avec une sorte de muraille de Chine virtuelle. Je pense qu'elle aura toujours du mal à cela, parce que dans une économie de données digitales, c'est très difficile d'avoir une muraille efficace. Mais l'autre aspect de la politique chinoise sur l'Internet, qui est gros de potentialités inquiétantes, c'est ce que les Chinois appellent le système des crédits sociaux, qui est encore dans ses débuts, mais qui consiste au fond à tirer les conséquences du fait que dans toutes nos activités, nous laissons une trace digitale, et à consolider ces données de telle manière que pour toute personne, on puisse en quelque sorte lui donner une note digitale de bon ou de mauvais comportement. Quelle page du web vous avez visité? Est-ce que vous avez fait assez d'exercices physiques? Quel nombre de pas avez-vous fait?
Et combien de déclarations de Xi Jinping avez-vous lues dans la journée?
Par exemple, qui avez-vous rencontré? Parce qu'avec les données de géolocalisation, tout ça sera possible. Donc, comment dépensez-vous votre argent? Quels journaux lisez-vous? Tout est connu. Et donc, sur cette base, on peut donner des bons points, des mauvais points. On peut ensuite, et ça c'est peut-être le plus grave, on peut façonner la manière dont vous allez penser. Parce que on va vous mettre devant les pages du web qui sont celles qui vous façonneront de la façon la plus efficace. Mais en faisant cela, on n'est pas si loin de ce que fait Facebook, qui, quand vous allez sur votre page Facebook, vous allez recevoir les nouvelles qui sont les informations, les pages qui vous intéressent, mais aussi qui vous construisent. Mmh. Et par les likes de Facebook, vous croyez être le nouveau membre d'un parlement universel, alors qu'en réalité, vous êtes en train de définir les contours de votre prison, parce que vous êtes en train de préciser ce que vous êtes. Et de ce point de vue, je vois une sorte de convergence paradoxale entre ce que la Chine essaye de faire en fabriquant une sorte de dictature préventive. Au fond, on contrôlerait tellement les perceptions, les émotions, qu'il n'y aurait plus besoin de la répression, qui est encore évidemment au centre de la dictature chinoise, la répression policière. Il n'y aurait plus besoin de réprimer à partir du moment où les gens sont si bien conditionnés qui sont comme le chien de La Fontaine par rapport au loup. Ils ont peut-être un collier mental autour d'eux, mais ils ne le sentent pas.
Et c'est pour ça que vous dites, l'expression m'a un peu intrigué, Jean-Marie Guénoux, que la Chine peut être un véritable modèle.
Je pense que dans nos sociétés où on est de plus en plus polarisé, fragmenté, haineux souvent, c'est épuisant, cette bataille, ce combat permanent. Et donc, il y a d'une certaine manière, à mon sens, un rêve de tranquillité. De tranquillité qui peut être l'endormissement, si je puis dire. Et c'est là que je vois une sorte de tentation chinoise. On a envie d'être au calme, en quelque sorte. Et c'est ce que les Chinois veulent fabriquer pour le peuple chinois.
Donc on est passé de la fin de l'URSS en 1991 à cette nouvelle société créée par la Chine en 2021 et dans les années et les siècles qui vont venir, Jean-Marie Guénoux, et l'Europe là-dedans, parce que vous consacrez un long développement au rôle que doit avoir l'Europe qui, dites-vous, peut inventer quelque chose.
Oui, moi je vis une bonne partie de mon temps aux États-Unis et donc je vois l'Europe à distance et je peux vous dire une chose, quand on regarde l'Europe à distance, d'une certaine manière, elle est une évidence.
Ah bon?
Quand on est...
Parce que de près, c'est moins clair.
Exactement. Non, quand je suis en France, quand je suis en Europe, je vois bien toutes les différences, toutes les bagarres entre Européens, oui. Toute la complication européenne. Quand on vit plus loin de l'Europe, on se rend compte d'une sorte d'évidence européenne. Et je m'explique. Je crois qu'aux États-Unis, la force des États-Unis, c'est d'être un pays, en quelque sorte, qui se veut un projet, avec une réinterprétation de son histoire.
Avec une destinée manifeste, pour
avec une destinée manifeste, avec l'exceptionnalisme américain. Une réinterprétation de son histoire, parce que les États-Unis, c'est aussi l'esclavage. C'est pas un contrat signé par tous ceux qui sont aux États-Unis. Il y a tous ceux qui y sont arrivés comme esclaves. Donc, mais le mythe américain, c'est celui du contrat tout entier tourné vers l'avenir. Je crois que les Européens et la plupart des pays du monde, de ce point de vue, ils ont beaucoup plus une mémoire et ils ont à gérer cet équilibre entre une mémoire qui a ses mensonges. Nos ancêtres, les Gaulois, ça ne correspond pas à la France d'aujourd'hui. Les pays ne cessent, et pas seulement à cause de l'immigration récente, parce que la France n'a cessé de se transformer.
De se métisser.
Les Italiens, oui. Les Polonais, entre les deux guerres. Enfin, donc, c'est un mouvement continuel. Donc, je ne fais pas d'illusions sur ces histoires qu'on se raconte, qui sont pleines de mensonges. Mais il y a ce souci d'essayer d'équilibrer l'identité nationale entre la mémoire d'un passé et un projet pour l'avenir. Et cette mémoire, elle est importante pour la solidité d'une communauté humaine. Et en ce sens, je pense que les Européens sont plus près de beaucoup de pays que les États-Unis. En même temps, la mémoire, il ne faut pas que ça soit quelque chose de contrôler, qui devient une manipulation de l'État. Et c'est là qu'il ne faut pas que ce soit, je dirais, le modèle chinois.
Alors justement, vous écrivez, Jean-Marie Guénoux, que l'Europe hybride, là je vous cite, « parti coalition de nations, parti structure à la fois technocratique et quasi-judiciaire, parti embryon d'État fédéral, ne sera jamais un super-État et c'est sa chance. » Ce que vous écrivez va à contre-courant de tout ce que l'on dit sur l'Europe qui doit s'affirmer sur la scène internationale face aux États-Unis et face à la Chine.
Je crois que la grande difficulté de l'Europe, c'est que d'un côté, je pense qu'elle doit pouvoir sur certains plans, s'affirmer dans des jeux qui sont des jeux de puissance. Mais qu'en même temps, l'idée de devenir un super-État, c'est quelque chose qui correspond de moins en moins à ce qui veulent les peuples à travers le monde, où on se méfie de plus en plus des grandes structures, qui sont des structures qu'on ne maîtrise pas, qui sont loin de nous et qui peuvent être manipulées, qui peuvent déboucher sur des passions. Pensez à la manière dont les États-Unis ont élu Trump. Est-ce qu'on aurait envie, dans une Europe qui serait un super-État, d'un Trump européen? L'idée, par exemple, d'une élection au suffrage universel d'un président de l'Europe, je trouve que ça serait une très mauvaise idée. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que pour gérer la puissance, il faut accepter ce que les spécialistes de relations internationales appellent dans leur jargon la géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui doivent se gérer tout près des gens, au niveau d'une commune, d'une région, d'un département. Il y en a qui peuvent se gérer au niveau d'un pays, il y en a qui doivent se gérer au niveau d'un continent. Je crois que quand il s'agit des questions de sécurité, où l'identité continue de jouer un très grand rôle, j'ai un fond de scepticisme sur l'idée d'armée européenne, par exemple, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mmh. Je crois que une armée européenne, c'est-à-dire une armée européenne, c'est pas simplement des gens qui défilent un jour de fête nationale ou de fête européenne. Ce sont des gens qui, des soldats qui sont prêts à risquer leur vie et qui sont prêts à se faire tuer. Et je crois que là, en fait, d'identité de convergence européenne, on n'en est pas là. Je pense que on va rester encore sur des armées nationales, mais qui peuvent coopérer beaucoup plus entre elles. Je crois que dans d'autres domaines, de la technologie, des nouvelles menaces, par exemple du cyber, on peut aller vers des structures européennes. Et donc, c'est une réponse compliquée que je donne à la question. Et parce qu'elle est compliquée, elle est politiquement plus difficile à vendre. C'est beaucoup plus facile d'annoncer un drapeau européen et dire « on va tous se mettre derrière » que de dire sur certains sujets, ça sera l'Europe, et sur d'autres sujets, ça doit être autre chose.
Ceux qui pensent le monde.
Alors Jean-Marie Guénaud, il y a une grande question qui est apparue ces dernières années, en ce début du XXIe siècle, que vous analysez dans ce livre, c'est la question du climat, la question ô combien importante du réchauffement climatique. Et une petite voix a symbolisé dans le monde entier cette préoccupation, c'est celle de Greta Thunberg. Écoutons-la, c'était le 21 janvier 2020.
Il ne s'agit ni de droite, ni de gauche. On se moque de vos partis politiques. D'un point de vue durable, la gauche, la droite et le centre ont tous échoué. Aucune idéologie, aucune structure économique n'a été capable de répondre à l'urgence environnementale et climatique pour créer un monde durable. Parce que notre monde, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, est en feu. Vous nous avez dit que les enfants n'ont pas à s'inquiéter. Vous avez dit « Laissez, nous allons régler ça ». Promis, nous ne vous laisserons pas tomber. Ne soyez pas si pessimiste. Résultat, rien. Le silence. Ou quelque chose de pire que le silence. des mots vides et des promesses qui donnent l'impression que des actions suffisantes sont prises.
Which give the impression that sufficient action is being taken.
Dans les propos de Greta Thunberg, il y a plusieurs choses, Jean-Marie Guénaud. Il y a évidemment cette préoccupation pour la défense de l'environnement à l'échelle mondiale, mais il y a aussi un désir d'une autre façon de faire de la politique. Ça aussi, vous l'analysez dans ce livre.
Oui, je crois qu'effectivement, la question écologique, la question de notre rapport à la planète sera peut-être un des éléments de refondation de la politique. Mais pour que ça le soit, il ne faut pas que ça soit le monopole d'un parti. Il faut que tous les partis aient leur vision de la question et qu'un vrai débat s'organise sur cette vision. Et ce que, quelquefois, je reprocherais à, par exemple, à Greta Thunberg, ayant le courage de le dire, c'est que je pense que quand on nous promet l'enfer, si on ne fait pas ceci ou cela, on ferme le débat. Parce que, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'état d'urgence, et l'état d'urgence, c'est pas le débat. Et il me semble que sur cette question écologique, ce sur quoi il faut discuter, c'est des risques et de la répartition des risques qu'on prend. Risque pour aujourd'hui, risque pour demain. Et ça, ce sont des questions éminemment politiques. Et je pense que le débat sur l'écologie ne prend pas assez en compte, justement, ce débat sur les risques, parce que nous voulons être une société du risque zéro. Et pour moi, société du risque zéro, c'est une contradiction dans les termes. Parce que une société du risque zéro, ça veut dire une société qui met la vie pour la vie en valeur absolue. Bien sûr, la vie a une valeur immense. Mais si on ne vit que pour vivre, en quelque sorte, on ne vit pas. On vit pour des valeurs. Et une société, un débat politique dans une société, c'est quel risque je suis prêt à prendre, quel risque je ne suis pas prêt à prendre pour ma communauté, pour les autres, pour moi et pour le Bangladesh.
Encore faut-il, Jean-Marie Guénaud, qu'il y ait débat. Comment organiser ce débat? Comment refonder l'autorité politique? Vous dites dans ce livre qu'il faut sauver l'autorité et les valeurs plutôt que les identités. Et vous dites, vous avez cette phrase qui résume bien, c'est une manière de voir les choses. Vous écrivez que, accablés d'universel, nous sommes de plus en plus assoiffés de particuliers. C'est ce qu'on appelle familièrement le grand écart.
C'est un très grand écart, mais je pense que c'est bien le problème qui se pose et qui met en cause notre idée de la représentation. Aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de la méfiance. Nous nous méfions des institutions, nous ne croyons pas aux autres. Nous sommes dans l'âge du selfie. Et l'âge du selfie, c'est l'âge de la méfiance.
L'âge de l'autosatisfaction, si on se regarde.
C'est un âge narcissique. Narcissique. On ne pense pas au-delà de soi-même. En même temps, on a un immense besoin de penser au-delà de soi-même. C'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles on a applaudi les soignants au début de la pandémie. Bien sûr, on leur était reconnaissant de sauver nos vies, mais je pense qu'il y avait aussi une sorte d'envie inconsciente vis-à-vis de gens qui donnaient un sens à leur vie, qui allaient au-delà d'eux-mêmes, qui prenaient des risques pour les autres. Et au fond, nous, on sait bien qu'une société n'existe que si on est prêt à prendre des risques pour quelque chose de plus grand que soi-même. Alors, la question de la représentation que vous posez, je crois que la difficulté qu'on a eue, c'est le mélange des genres. Et on le voit même sur la pandémie. Parce que aujourd'hui, il y a une légitimité du savoir qui est importante. Tout le monde ne sait pas tout et tout le monde ne va pas dire n'importe quoi. Donc, il y a une autorité de la science qu'il faut savoir reconnaître. En même temps, la science ne doit pas nous dicter nos conduites. Si on reprend l'exemple de la pandémie, c'est à la science de nous dire quels sont les risques si on gère les choses de telle ou telle façon, confinement, pas confinement, etc. Mais c'est à la politique de prendre ses responsabilités, de dire il y a le risque de la pandémie, il y a le risque économique. Et moi, en tant que politique, et je prends ma responsabilité politique, voilà le degré de risque que je suis prêt à prendre. Trop souvent, les politiques se sont cachés, en quelque sorte, derrière la science, et les scientifiques, quelquefois, osons le dire, ont eu un peu la satisfaction brusquement d'être dans les médias.
On en a vu beaucoup, oui.
Et de penser qu'ils pouvaient dicter la réponse. Et les deux avaient tort. Et je pense que ça nuit à la politique comme ça nuit à la science, parce que la science, ça n'est pas les gourous, et la politique, ça n'est pas la science.
Et est-ce qu'un des problèmes des politiques aujourd'hui, Jean-Marie Guéhenno, ce n'est pas d'être dépassé, en quelque sorte, par la complexité de ce monde-ci ? Les technologies, les évolutions de la science, face à cela, l'économie aussi, face à cela, les hommes politiques, les femmes politiques sont parfois désorientés et ont tendance à suivre le mouvement, tout simplement.
Oui, je pense que ça tient aussi au cycle court dans lequel nous vivons. Les politiques, de plus en plus, ils gèrent des symboles et des perceptions. Ils savent que leur contrôle des choses, des réalités, est limité pour toutes les raisons que nous avons évoquées dans cet entretien. Et donc, ils se rabattent sur la gestion des perceptions. Et c'est un cercle vicieux parce que le public n'est pas fait d'imbéciles.
Et s'aperçoit bien que les politiques sont à la traîne, comme on dit aussi familièrement.
Ils se rendent compte qu'on est en train de leur raconter des histoires et que les politiques contrôlent moins qu'ils ne promettent. Et donc une réaction négative qui enfonce un peu plus les politiques. Moi, je pense que pour refonder la politique, il faut une certaine modestie et que cette modestie...
Une certaine modération. C'est pas dans l'air du temps, hein.
Non.
Ni la modestie, ni la modération.
Non, c'est pas, la modération n'est pas dans l'air du temps, alors pour des raisons qui tiennent en particulier à l'Internet. C'est-à-dire que vous déclencherez beaucoup plus de clics, vous aurez beaucoup plus de suiveurs si vous êtes dans l'excès et la polarisation. Le d'une part, d'autre part, ça n'a jamais beaucoup excité, et aujourd'hui moins que jamais.
Vous dites, vous faites référence à la Renaissance dans votre livre, la Grande Renaissance, et vous dites qu'on pourrait... C'est la version optimiste, être à la veille d'une seconde Renaissance.
Oui, la Renaissance, elle était aussi pleine de contradictions. La Renaissance, c'est l'époque des guerres de religion.
Oui.
C'est l'époque d'une remise en cause profonde des légitimités à cause de l'invention du livre. Aujourd'hui, nous avons cette même crise politique, cette même remise en cause des légitimités, mais aussi un potentiel formidable de développement. Parce que l'âge des données qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de voir des corrélations entre des phénomènes qu'un esprit humain, même le plus brillant, ne peut pas voir, c'est une sorte de démultiplicateur du cerveau, comme la révolution industrielle a été un démultiplicateur de la force physique. Et donc, ça ouvre des possibilités absolument extraordinaires. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment, face à ces possibilités, on va organiser les institutions politiques. Après la Renaissance, il a fallu au fond 2-3 siècles pour
inventer l'État moderne.
Pour inventer l'État moderne.
Oui.
Et là, nous n'avons pas le luxe d'attendre 2-3 siècles, parce que les possibilités de destruction, les possibilités de catastrophe sont là. Donc c'est à la fois mon inquiétude, le fait qu'on est au bord d'une révolution fantastique dont on n'imagine pas toutes les possibilités, mais que les structures politiques qui permettront de la gérer, on ne sait pas encore exactement ce qu'elles seront.
Merci Jean-Marie Guéhenno. Votre livre que je recommande s'intitule « Le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde ». Il est publié aux éditions Flammarion.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Écrivez-nous à l'adresse suivante.
Idée au pluriel. @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, des nouvelles du monde entier, sur RFI.